Ça part de très loin, puisque dans ma jeunesse, j'étais militant dans le mouvement MRJC, la jeunesse chrétienne.
Henri Ourcade, né en 1944. Entretien du 18 juillet 2019.
Même pendant les années 67-68, j'ai été permanent régional à Bordeaux. Mais auparavant, je faisais partie de la jeunesse rurale du Béarn, puisque depuis ma jeunesse, moi j'ai connu la montagne comme beaucoup de jeunes ruraux par le biais de camps qui étaient organisés à l'époque par les curés des villages, qui nous faisaient découvrir pour la première fois autre chose que notre vie de village. Parce que moi, je suis né dans un petit village où il y avait 120 habitants. Les loisirs, c'était. Il n'y en avait pas, quoi. Il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait rien. Donc, c'est vrai, c'était ou le curé ou l'instituteur qui avait la même mise un peu sur les jeunes. Dans ma commune, c'était plutôt le prêtre, donc, qui a été le fédérateur de cette jeunesse qui était active, hein, mais sans trop de perspectives de loisirs ni de sorties. Donc, j'ai connu le lieu de la Skeb, Pont de Kams, par le biais des camps sous toile. Déjà les années 55, 58, 60.
Donc, quel était votre village?
Gomer.
Et le nom du prêtre, vous en souvenez?
Il est décédé aujourd'hui, Joseph Jointosy.
En charge de la commune de
Du
Gomer?
village, oui, de la
Voilà,
paroisse,
de la
puisqu'il avait
paroisse.
deux villages. Et qui, effectivement, à cette époque-là, hein, quand on avait 14-15 ans, il essayait de nous regrouper, quoi, pour toute notre activité, en particulier pendant les vacances, pour sortir un peu du village, pour aller faire des camps. Donc moi, les premiers camps, j'étais avec lui dans ce secteur de la haute vallée d'Ossau, qui s'appelle la Skebes, quoi. La Skebes, c'est après Pont de Kams, et on campait sous toile, à côté des rochers, pour se protéger. On se lavait aux gaves, hein. C'était vraiment du scoutisme aussi, voilà.
L'été, vous partiez, vous étiez fils d'agriculteur?
Oui.
Donc, vous aviez un moment où vous aidiez aux champs et vous partiez. Comment ça s'organisait?
Les parents étaient très dépendants des curés. Les prêtres avaient, comment dire ça, c'était eux qui avaient, pas raison, mais qui dominaient un peu, quoi. Et s'ils disaient, il faut me libérer ce garçon, les parents ne faisaient pas obstacle. Et après, bien sûr, avec ce prêtre, il y a eu aussi des voyages. J'ai couvert la Collioure, par exemple, c'était ma première grande sortie en bus. Alors ça, c'était 15 ans, 15, 17 ans, quoi.
Que des garçons ou il y avait des filles?
C'était mixte, oui. Avec des moniteurs, ouais, garçons et filles, des cuisiniers, cuisinières. On a été aussi à Col du Soulor. Il y avait une grange, on campait à l'extérieur et après on mangeait en cas de mauvais temps à la grange. Là je me souviens, à Reims-Marsous, on couchait donc sous ces tentes canadiennes de l'armée, il n'y avait qu'une toile, quoi. Et on mettait la paille et on mettait le couchage dessus, quoi. Et quand on a démonté à la fin du camp, 8 jours, 10 jours après, on enlève la paille. Qu'est-ce qu'il y avait sous la paille? Serpent. Il y avait un serpent qui était au chaud, et certainement on a dû dormir sur lui un certain nombre de nuits sans avoir été inquiété par lui. C'est une petite anecdote du camping sauvage, vraiment sauvage.
Et donc à la Skeb, comment ça se passait là quand vous y alliez? C'était, vous y restiez combien de temps à peu près?
8-10 jours.
Donc la douche ou le bain,
Ah,
c'était
c'était
dans
le
la
gamme.
cave?
Les toilettes, c'était, on appelait ça les feuillets, pudiquement.
D'accord.
On allait chercher un coin où il y avait quelques feuillages. On faisait d'abord un trou, hein, assez profond. Et quand on quittait le camp, on recouvrait le trou.
Et la nourriture, hein? Il y avait un cuisinier, une
Oui,
cuisinière?
hein. C'était bénévole du village, hein, parce que le prêtre amenait tout, hein, casserole, cuisinière, pas cuisinière, matériel, hein, tout ce qu'il fallait, quoi. Et on s'alimentait, je pense qu'il devait descendre à la Reims de temps en temps pour aller
D'accord.
acheter l'alimentation.
Donc là, c'est essentiellement des randonnées.
Tout à fait, feu de camp.
Bien
Vraiment la
sûr.
vie de l'époque, quoi. Et pour nous, tout ça, c'était une découverte.
C'était votre premier contact avec la montagne.
Oui, ici, on avait des contacts. Sur les coteaux, quoi, parce que je suis pas loin du chemin Henri IV. Hein. Alors c'est vrai qu'on faisait le jeudi n'y avait pas école. On faisait des sorties, quoi, rando. Des boucles, quoi, des marches. Hein. Toujours dans l'esprit d'être dans la nature, quand même. Hein. C'était la nature, observer. À un endroit, il y avait une fontaine. On appelle ça la fontaine de Moussu. Bon, pourquoi? Allez, on cherchait l'histoire de Moussu. C'était dans cet esprit-là de curiosité, mais aussi proche de la nature, quoi. On était né là-dedans, quoi. On connaissait pas la ville. Hein. Sauf que moi je l'ai connu parce que je suis le dernier d'une grande fratrie et on a 18 ans d'écart avec l'aîné. Mais c'est loin de Pont de Kams, tout ça.
Alors, comment vous êtes arrivé donc dans les locaux après?
Je suis passé dans la structure de la jeunesse rurale du Béarn. On restait adhérent dans le mouvement MRJC, jeunesse rurale du Béarn, jusqu'à qu'on se marie, qu'on a fêté. Après le mariage, c'était en 1969, donc je n'étais plus à la jeunesse du Béarn, mais j'étais quand même proche de ces structures, quoi. Et je me rappelle très bien qu'avec la chasse du Béarn, on avait vécu une petite histoire de chalet, puisque la chasse du Béarn était propriétaire d'un petit chalet à Aubonne, sur la route de Gourette. Ça s'appelait la cascade du Gros Hêtre. C'était une grange, bien sûr, sans électricité, sans rien, qui nous permettait là aussi, la chasse du Béarn, de faire des camps. Dans le même esprit et tout ça, mais qui regroupait des villages de tout le Béarn. C'était quand même déjà un brassage de jeunes. Ouais, la même chose, quoi. C'était des camps, mais là il y avait une structure de maison. Quoi. Maison, on pouvait s'abriter, on logeait dans la maison, tout ça. C'était différent. Quoi. On utilisait aussi ces locaux. Moi j'ai eu des relations avec toute l'Aquitaine, puisque j'étais responsable de l'Aquitaine. Et juste à ces époques-là, la jeunesse rurale des Landes, ils avaient décidé de construire un chalet au Soulor. Et l'histoire de cette construction nous a révélé une chose, c'est que c'était les jeunes qui avaient décidé ça, qui avaient commencé ça, mais qui n'ont pas pu le finir puisqu'ils étaient plus jeunes. C'était une opération de plusieurs années. Les jeunes qui avaient entamé, de par leurs études ou leur profession, quitter le land, donc la ressource ne s'est pas suffisamment renouvelée. Donc cette expérience des Landes a très vite convaincu la jeunesse du Béarn que si un projet prenait lieu pour nous, eh bien, il fallait aller au-delà et se structurer avec des adultes qui allaient pouvoir porter ce projet jusqu'au bout. Et ça s'est vécu puisque, là aussi c'était des camps qui gravitaient autour de la pont de Clams, et le directeur de la SNCF à l'époque avait dit, mais curé l'abbé Benz, mais vous faites des camps autour de chez nous, mais je m'aperçois que les bâtiments pourraient vous intéresser, parce que nous pour l'instant on n'a pas de projet, donc on peut vous laisser ces bâtiments à titre précaire. Donc c'est comme ça que l'agence du Béarn a utilisé ces bâtiments depuis les années 63. Très vite après, je crois que c'était 2 ans après, la SNCF a repris contact avec la jeunesse du Béarn en disant « Mais écoutez, on a pris la décision de ne pas continuer les travaux de création de barrages dans la vallée d'Ossau. Donc ces bâtiments ne nous intéressent pas. Si vous êtes d'accord, on peut vous les vendre. » En 1970, donc, que la SNCF a mis en vente les baraquements et nous sommes devenus propriétaires en mars 1970. Pour une petite anecdote, ça nous a coûté plus cher le billet SNCF pour aller jusqu'à Paris signer cet achat que l'achat lui-même, puisque ça nous a coûté 100 francs, des nouveaux francs. Et justement, dès 1971, après, la commune de La Reuse a décidé de faire un lotissement. Et à l'époque, la commune de La Reuse n'était pas tellement favorable à ce que centre de vacances perdure. Enfin, centre de vacances, ces bâtiments perdurent, c'était une verrue pour eux, quoi. Et là, il y a eu quand même une grosse prise de conscience de la commune de La Reuse, que nous n'étions pas des isolés, c'était un groupe vraiment structuré, qui a dit non, nous on veut que l'eau nous soit réservée pour continuer notre activité centre de vacances. Et c'est en l'année suivante, donc en 1971, que la commune de La Reuse donc, a accepté que nous achetions ce terrain de 5400 m².
À l'époque, vous étiez déjà dans le monde du travail ?
En octobre 68. Mon expérience est terminée au MRJC parce que j'avais été recruté entre guillemets par le MRJC régional pour monter une grosse opération de rassemblement national des jeunes qui était Zoom 68 à Grenoble, après les Jeux Olympiques. Et les événements 68 ont perturbé notre... Et donc, la manifestation n'a jamais eu lieu. Donc moi, permanent, j'étais licencié à l'époque. Et puis je suis entré dans le monde du travail. Comme formation, j'avais le certificat d'études et j'ai fait une école d'agriculture et j'avais obtenu le brevet agricole pour pouvoir être exploitant agricole. Ça n'a jamais abouti. J'ai fait 3 demandes d'emploi. En 68, je suis rentré à la banque Crédit Agricole, où j'ai fait ma carrière à 33 ans.
Après 1971, donc vous êtes...
En 71, j'étais déjà,
vous étiez du coup, déjà
au travail, mais on était toujours proche de la jeunesse du Béarn.
Voilà.
Et la jeunesse du Béarn comptait aussi sur nous, les anciens militants. Parce qu'effectivement, en 1971, ce projet, bon, Pont de Clams, on l'a acheté, on a dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Il fallait tout reconstruire.
C'était dans quel état ? Vous vous souvenez ?
Ah oui, très bien. C'était 4 bâtiments. L'état du bâtiment le plus resté en forme, c'était celui qui abritait les cadres. Il y avait effectivement un grand réfectoire, une cuisine, si on peut appeler ça une cuisine, une réserve, et puis les chambres individuelles des cadres. Avec, dans une chambre... C'est après qu'on a découvert, il y avait un gros bloc comme ça de ciment au milieu d'une pièce. Quoi. Énorme. Hein. J'ai dit, ça c'était pour y sceller le coffre. Effectivement, les ouvriers, il y avait quand même plus de 100 ouvriers. Ils étaient payés à l'espèce. Donc il y avait ce bâtiment qui était à peu près en état. Les 2 autres bâtiments, c'était des dortoirs. Un couloir qui faisait 40 mètres de long avec des chambres, de 10 lits, quoi, à peu près. Voilà. Bois extérieur, mais les cloisons toutes à l'isorel. Électricité conforme, pas du tout. Pour alimenter les chambres, il y avait dans les combles des fils nus sur des isolateurs en porcelaine, parce qu'eux, ils avaient le chauffage. les ouvriers là. Comme ils étaient branchés directement sur l'usine d'Artus avec un transformateur, c'était des grosses plaques de ciment. On passait deux fils, des barres comme ça, de diamètre de 6 mm ou 7. Et c'est ça qui chauffait dans la plaque, hein, qui entretenait la chaleur dans ces chambres-là. Quoi. Il n'y avait pas d'eau dans les chambres. Il y avait une espèce d'abreuvoir au bout du bâtiment, 5 mètres, 4 mètres de long, où il y avait des robinets qui coulaient, et les gens se lavaient. Là. Il y avait une douche et un water dans chaque bâtiment. Quoi. Et c'est tout. Bon, construit en 45, je crois, ces bâtiments, quoi. Là, c'était déjà 30 ans après, ou pas loin. Dans la neige, dans les conditions de montagne qui ne sont pas les conditions de plaine. Quoi. Donc, ils avaient souffert. Ils ne pouvaient pas continuer à occuper ces locaux pour des jeunes, parce que là, la GSR du Béarn avait comme objectif donc, de faire des camps de jeunes là-dedans. La commission de sécurité nous a autorisé le maintien dans le bâtiment le plus à l'état, mais après, il avait dit non, les autres, on les ferme. Et c'est là où la GSR du Béarn a dit bon, écoutez, il faut qu'on se mette au travail et que l'on ait un projet de reconstruction de Pont-de-Cams. Et eux, ils ont décidé de vendre, parce qu'il n'y a pas d'argent, le premier, là, le Gros-Hêtre. Donc, ils ont vendu le Gros-Hêtre. Cet argent-là, eh bien, on va s'en servir pour commencer à faire de l'apport pour le financement des travaux. Et c'est eux qui ont eu l'initiative, donc, en 1972, de dire, bon, il faut qu'on crée une association, jeunes de la jeunesse du Béarn, mais aussi adultes, proches, et qui sont d'accord sur les objectifs de la jeunesse du Béarn, pour créer donc, l'association qu'on a appelée Béarn Pont-de-Cams Jeunesse du Béarn. Mais on avait créé cette association pour qu'elle soit vraiment distincte, parce que la Chance du Béarn, enfin, vous le savez certainement, c'était une structure mais qui, en définitive, couvrait l'activité du mouvement rural de la Chance chrétienne. Dans les départements, ils utilisaient le nom Jeunesse du Béarn pour que soit reconnu un mouvement d'éducation populaire qui obtenait subvention, alors que le mouvement chrétien n'aurait pas obtenu ces subventions-là. Donc, la Chance du Béarn a dit il faut qu'on crée une association parce que ces travaux seront très lourds et c'est pas possible qu'une équipe de jeunes, aujourd'hui nous avons 18 ans, 17 ans, puisse porter ce projet. Et il y a eu unanimité de la part de la GSR du Béarn, mais aussi il y a eu très vite un apport d'anciens, plus de la JRB, mais aussi d'autres, hein, qui se sont approchés de cette structure hein, et qui ont été d'accord pour faire partie de ce projet, de cette aventure, parce que c'est devenu une aventure. Pour l'anecdote aussi, la présidente de l'association Béarn Pont-de-Cams, Michèle Rey, elle avait été auparavant présidente de la jeunesse du Béarn. Donc, vous voyez, c'était une continuité sur notre association. Mais autour d'elle, que ce soit le secrétaire ou d'autres personnes, elle n'était pas obligatoirement issue de la jeunesse du Béarn, mais qui était vraiment des gens très proches de ses objectifs, de ses valeurs et de ses projets. Parce que dans le milieu rural, les jeunes qui quittaient le MRJC parce qu'ils n'atteignent pas la limite d'âge, les structures catholiques proposaient d'adhérer à un groupe qui s'appelle le CMR, Chrétien dans le monde rural. Moi, j'ai fait partie aussi pendant quelques années de cette structure-là. C'était dans des adultes qui se réunissaient en tant que chrétiens dans le monde rural. Mais c'était une structure comme la MRJC, quoi, qui était une structure d'église. Quoi.
À quel âge ont quitté la JRB, enfin les jeunesses rurales ?
À l'époque, beaucoup de jeunes se mariaient.
Vers 25 ans.
Avant, oui, oui. 20 ans, 21 ans. Et souvent, c'était soit des jeunes qui partaient faire des études, donc c'était la région, mais les adultes qui restaient localement, on leur suggérait de participer à ce mouvement donc, chrétien du monde rural, et qui aussi ont été quand même, non pas adhérents à Béarn Pont-de-Cams, mais soutien aussi moral et physique. Donc cette association elle a très vite regroupé beaucoup de personnes. Hein.
Alors vous aviez un poste dans le bureau, vous faisiez quoi dans l'association ?
Moi, j'étais secrétaire. Hein. Déjà, on était une vingtaine quoi, dans un conseil d'administration. En plus des 18, il y avait plus de force vive. C'est pour ça qu'on créait des commissions pour que tout le monde puisse adhérer à ce projet. Je trouve qu'on a été une équipe très très soudée. Pour nous, ça a été quelque chose de très profond.
Alors, comment ça s'est passé, cette création, justement ?
L'association Béarn Pont-de-Cams, chasseurs du Béarn, a décidé donc de rénover les locaux. Qu'est-ce qu'il fallait pour rénover les locaux ? Il fallait un permis de construire, l'architecte pour voir le projet qu'on avait, demander un permis, mais aussi obtenir des fonds. Ça a été un travail très très long, parce qu'il fallait se faire connaître, se faire reconnaître surtout, hein, avec des réunions, des contacts. Quoi. Contact avec la SICA, contact avec la mairie de la Reims, contact avec l'architecte, contact avec le chasseur sport, contact avec la commission de sécurité, contact avec le président du conseil départemental, etc., etc., avec le préfet.
Au moins 2 à 3 réunions par mois.
Oui, ça c'était les démarches, mais auparavant il y avait les réunions.
Et les démarches, voilà.
Ça c'est la première année. Or, au bout d'un an, le GMBIC n'avait pas avancé. La première esquisse quoi, de Pont de Cams, qui avait été faite par l'architecte, mais avec le soutien d'André Ricarrière, qui travaillait au Château de Pau, donc dans l'architecture. Premier projet, chiffré, 1 million de francs. On a dit 1 million de francs, non, c'est trop gros. Mais enfin, essayons. Et on a essayé. Et là, Michel Reille a été d'une ténacité remarquable. Parce que la présidente était agricultrice. Elle a donné beaucoup de temps, elle avait beaucoup d'énergie, beaucoup de ténacité. Elle a tenu toute la démarche jusqu'à ce qu'on ait le permis. Et ça a duré 4 ans. 72, 73, et puis ça venait pas, ça venait pas. Pendant ce temps-là, on était dans une période d'inflation galopante. En 74, le million, enfin 900 000 mettons, couvrait tout juste l'aménagement d'un bâtiment. Donc, on a refait un projet que pour rénover le bâtiment central. Et là, il faut dire quand même qu'on n'avait pas les soutiens espérés. Et pourtant, le permis a été délivré. D'une façon concomitante, malgré que le permis traînait, hein, il y avait eu un événement dans les Alpes où il y avait une avalanche qui avait emporté un chalet. Donc là, nous étions aussi victimes de ce contexte-là. Et plusieurs fois, le permis a été différé parce que nous étions dans une zone de risque d'avalanche. La carte des avalanches est faite à Grenoble. C'est Grenoble qui gère tout ça. Et on a obtenu que un personnel de Grenoble vienne à Pont-de-Camps se rendre compte d'où pouvait venir le danger. Et je me rappelle cette entrevue, il arrive avec sa sacoche, il y avait aussi Justin Laban, qui était un prêtre directeur de Naï, qui a mené beaucoup de jeunes aussi à Pont-de-Camps, et qui connaissait beaucoup la montagne. Et donc il arrive, ce monsieur-là, sur Pont-de-Camps, il se retourne vers ce ouest-là, il dit, la coulée, elle peut venir de là. Sur les cartes, il avait une trace, comme s'il y avait une avalanche qui avait coulé, or c'était une trace de forestiers. Dans la montagne, ils avaient abattu les arbres pour passer leurs câbles pour descendre les fûts. Et vu du ciel, c'était un couloir d'avalanche. Et grâce à cette venue, il a dit « Ok, vous avez raison ». Donc, il a levé le veto, lui, je pense, au niveau du permis. Et tout ça, c'était les années 71, 72, 73, 74. Donc, quand le permis est arrivé, on le savait quelques temps avant qu'il allait arriver, ben, nous, on a pris la décision de commencer. On a démoli tout sans permis. Enfin, démoli le bâtiment du centre. On n'avait pas démoli l'extérieur. Mais on avait tout démoli à l'intérieur. Et c'est là où je veux rappeler que les jeunes qui avaient 17 ans ont participé beaucoup. C'était encadré, bien sûr, par nous, ouais, mais c'était quand même un apport très, très important. On peut revenir à la création. Donc, vous voyez bien que moi, j'étais beaucoup marqué par ça. Pont-de-Camps, pour moi, ça a été 5 ans. Et des portes, à ce moment-là, se sont ouvertes. Parce que ce financement qui nous paraissait important, eh bien, grâce à toutes ces démarches, ça nous a coûté à la fin qu'un prêt à faire de 73 000 francs sur 900 quelques mille francs de travaux. Pourquoi ? Parce qu'on a eu en particulier la Caisse nationale de la question familiale, grâce aussi à des locaux ici qu'on a été voir, qu'on a été revoir, et eux, ils nous ont financé 40%. C'est grâce à ça que ça a pu se faire. Et c'est là que la gestion d'épargne a apporté la vente du gros être dans la caisse de Pont-de-Camps, plus quelques fonds propres qu'ils avaient disponibles. Cette équipe, bien Pont-de-Camps, on a été chercher des personne qu'on connaissait, qui ne faisait partie ni de la JREB, ni de l'MRJC, ni quoi que ce soit. Jean-Claude Cravos, qui a été pour l'association le pilier de technique des rénovations de Pont-de-Camps. C'est quelqu'un qui travaillait dans une entreprise de lac et qui a porté beaucoup de compétences dans la tenue et la réalisation des week-ends. C'était lui le penseur et le réalisateur, mais commission de travaux, c'était quand même vraiment une équipe. On était 7-8. Un des points forts de cette association Pont-de-Camps, comme il y avait quand même beaucoup de volonté et de compétences, était aussi de créer des groupes de travail. Beaucoup de personnes, de bénévoles, qui ont permis de créer des commissions, commissions travaux, commissions financement, commissions gestion du Pont-de-Camps pendant les travaux, questions économiques. L'autre commission, c'était la commission animation, parce que l'objectif d'un Pont-de-Camps, c'est aussi qu'est-ce qu'on vient faire à Pont-de-Camps, quoi. Parce que pendant que l'on reconstruisait, la vie de Béarn Pont-de-Camps continuait. On accueillait les groupes dans les bâtiments existants. On a pu continuer, pendant les travaux, l'accueil des camps. Donc, toutes ces commissions, elles ont porté beaucoup de force à l'ensemble.
Et donc, à l'époque, vous, c'était votre principal engagement bénévole, on peut le dire. Est-ce qu'il y avait d'autres lieux où vous étiez engagé bénévolement ?
Très vite après, j'ai été engagé à la mairie de Morlas, conseiller municipal. Mais c'était tout à fait compatible tout ça. Au niveau professionnel, j'étais engagé au syndicat aussi. Je crois que c'est important aussi de ne pas avoir qu'un seul engagement. On est trop dépendant, quoi, il me semble. Et j'ai peut-être profité de l'expérience de Pont-de-Camps pour voir un peu différemment toutes ces perspectives et ces possibilités de pouvoir apporter mon expérience dans tous ces domaines, quoi.
L'engagement est important dans votre vie, à tous les niveaux, on va dire. Ouais.
Moi, je disais à mes collègues de travail, il faut avoir un trépied dans la vie. Bon, je l'ai terminé comme ça, hein. Famille, travail et autre. Parce que s'il y en a un qui lâche, on reste sur deux. Et le mieux, c'est que les trois
continuent.
Pour moi, les trois ont vécu 50 ans, quoi. Et c'est pas fini.
Est-ce que, justement, cette expérience de Bernd Bandecamps vous a donné le goût ou le sens des responsabilités?
Oui. Au départ, c'est l'MRJC qui m'a donné ce goût, la responsabilité.
Oui, parce que vous étiez déjà dans les cadres.
Déjà. Mais après, ça, je me suis senti très bien dans Bandecamps, mais après, il n'y a pas eu que le projet de construction. Après, il y a eu le projet d'animation de Bandecamps. Moi, j'étais président en 80. Quand Michel Reille a fait tout ce parcours de combattant, c'était quand même de 72 à 80, ça avait quand même 8 ans. Hein. Au premier permis de construire, bon, elle a dit ouf. Puis, donc, je l'ai succédé à la présidence en 1980, quoi. Mais maximum 5 ans. Pour avancer, maintenant que c'est bien lancé, il faut qu'on se succède. Et effectivement, Jean-Paul Guadebex m'a remplacé, et ainsi de suite, ça s'est passé comme ça pendant, disons, une vingtaine d'années. Parce qu'après, il y a eu les autres bâtiments à rénover, et ça a dû continuer, et surtout le projet de Bandecamps, quoi. Et là, il y a eu des débats très, très ouverts, parfois vifs, mais ouverts. Il n'y a jamais eu d'exclusion à cause de ça, quoi. En disant, bon, Bandecamps, qu'est-ce qu'on veut en faire? Bon, accueil de jeunes en priorité. Donc, la structure du Bandecamps, un bâtiment, a été dictée par ça. Et des familles. Et après, qu'est-ce qu'on vient y faire? Un directeur, c'est un animateur surtout qu'il faut. Un directeur diplômé, bon. Au début, c'était obligatoire parce qu'on accueillait des groupes de jeunes qui n'avaient pas de directeur, donc il fallait que Bandecamps, c'est un directeur qui détenait les diplômes de directeur. Même aujourd'hui, Bandecamps a marqué l'environnement comme étant une affaire de curé. Si vous voyez les statuts de Bandecamps, on a voulu qu'il n'y ait pas cette appartenance au domaine religieux. Autant nous revendiquons l'origine, mais dans le fonctionnement d'un Bandecamps, nous ne voulons pas que l'association Bernd Bandecamps, Jasper Bernd, soit une structure apolitique ou religieuse. On a voulu rester ouvert à toutes les populations, mais avec des obligations qu'on discutait entre nous et qu'on applique. Participation à Bandecamps. On vient en vacances, je parle des familles là. D'entrée, voilà, vous avez votre chambre, mais vous devez vous occuper des toilettes, vos incombes, la vaisselle, on participe tous à la vaisselle, etc. etc. Et puis, on s'entend, si on veut faire des sorties ensemble, en famille, pour vous organiser entre vous, quoi. Donc aujourd'hui, l'animation, il n'y a plus de directeur diplômé, c'est plus de la peine, puisque les groupes qui viennent maintenant de jeunes sont avec leur structure, oui. Avec leur projet pédagogique. Donc aujourd'hui, Bandecamps, c'est un permanent, qu'on appelle directeur entre guillemets, et deux économes pour l'intendance, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous parler des week-ends chantiers? Comment ça s'organisait?
Les chantiers étaient organisés en aval, ici, en bas, autour de Jean-Claude Crabos. Donc c'est avec lui qu'on prévoyait en bas ce qu'on avait à faire pour la fin de semaine. Il s'occupait d'approvisionner le chantier avec les matériaux qu'il nous fallait. Et puis, bon, dès 8h du matin, le samedi, on se rendait à Bandecamps. On était vers 9h, 9h30 à Bandecamps. Et Jean-Claude, d'entrée, il avait prévu les équipes pour entamer la journée. Bien sûr, la première matinée était très vite coupée par un plat aux œufs avec de la chigare de chicoudouille. On faisait une halte à 10h du matin avec ça aux 10h30, parce qu'on savait qu'on était proche de l'Espagne et qu'on allait manger que vers 1h30 l'après-midi. Donc ça, c'était quand même très important aussi de créer ce petit instant, hein, où on pouvait échanger, parce qu'on n'échangeait pas que du chantier, loin de là. Hein. Quand on était ensemble, on échangeait de nos vies, de nos préoccupations, de nos événements, de tout. Hein. Après, donc, le repas de midi, ça repartait, et jusqu'au dimanche soir, vers 5h, 6h, on pliait le chantier, on le laissait tel que, parce qu'au début, c'était un chantier qui ne nécessitait pas de rangement, quoi. On le laissait tel que, pour le reprendre le 15 jours après, quoi.
Et là, vous montiez en famille?
Ceux qui travaillaient partaient peut-être ensemble, et les familles, après, s'organisaient pour monter ensemble aussi. Et ça a été, je pense, une vie, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a été positive pour tous, quoi, mais je crois qu'elle a permis quand même de se connaître à fond entre nous, quoi, hein. Parce que vivre deux jours par semaine, par quinzaine ensemble, ça évoque beaucoup de connaissances des uns et des autres. Et les enfants ont apprécié.
Qu'est-ce qu'ils faisaient, les enfants, pendant ce temps-là?
Ils se retrouvaient entre eux, ils voulaient faire un peu comme les adultes, alors il y avait toujours des planches, des marteaux, des pointes et autres, ouais. Ou sinon, il y avait quand même des mamans qui organisaient aussi leur temps des enfants, quoi. Les jeunes femmes, les hommes, on était tous avec des blouses, on faisait de la peinture, on poussait des brouettes. Le début a été vraiment quelque chose de formidable, quoi, au niveau participation familiale, quoi, aux travaux. Quand il a fallu déblayer, là, tout le monde participait, quoi. Porter des planches, porter des matériaux. Mais après, bon, quand il fallait remonter les cloisons, tout ça, il fallait être beaucoup plus prudent, un peu plus technicien, quoi. Voilà. On ne pouvait pas faire n'importe quoi, quoi. Parce que quand même, le chantier a duré des années et des années, on n'a jamais eu un accident, jamais. C'est quand même formidable.
Donc là, il y a essentiellement des bénévoles, il y avait peu d'entreprises finalement.
Au début, après très vite, oui, parce que le gros œuvre a été fait par une entreprise et qui a accepté de prendre en charge ce chantier avec l'apport des bénévoles. Il intervenait la semaine. Et nous, on arrivait le week-end pour continuer ce qu'il avait entamé ou ce qu'on pouvait faire en complément de cette entreprise. Parce que même pour monter des murs d'extension, tout ça, on ne pouvait pas nous-mêmes le faire. Par contre, la préparation, ça la faisait. Alors, il y a eu l'entreprise, donc charpente, couverture, maçonnerie. Mais ensuite, on a eu les intervenants, tout ce qui était côté sanitaire. Nous avons eu la chance de pouvoir travailler avec une entreprise qui s'appelle Kruzet Narudi. Monsieur Kruzet, pour lui, Pont-de-Cam, ça a été aussi un lieu où il aimait vivre. Lui, il se déplaçait des fois le week-end pour venir nous voir, même le dimanche. Ça a été une entreprise donc, qui nous a beaucoup, beaucoup apporté, puis qui était vraiment dans l'esprit. C'était un architecte qui couvrait l'ensemble, hein, qui a fait les plans, mais qui n'avait pas la charge du suivi des chantiers comme aujourd'hui. Quoi.
C'était Jean-Claude Cramos qui faisait
office. Ah oui, qui a fait office de relais pour tout. Quoi. C'était lui le pivot. Mais il avait autour de lui des gens quand même qui apportaient aussi leur complément de compétences. Chacun venait avec ce qu'il était, ce qu'il avait vécu, ce qu'il vivait. Moi, j'avais une vie dans la banque, il y avait la vie dans une entreprise, autre qui était maître d'école. C'était très varié comme population, très varié. Il y avait des débats sur les syndicats, sur ceci, sur cela, sur les revendications. Mais c'était gentil, très respectueux aussi. À Pont-de-Cam, on acceptait la diversité, on acceptait l'échange, on acceptait aussi la contradiction, mais toujours dans le respect quoi, des autres. C'est la mixité de tout ça qui faisait que. Mais c'était aussi, je crois, l'esprit de Pont-de-Cam. On tolérait beaucoup de choses, que les gens n'aient pas la même idée que nous. Et ça, c'est important. C'était des échanges.
Vous, c'est quelque chose qui a marqué votre vie. Mm-hmm. Qu'est-ce qui, pour vous, fait que toutes ces personnes se sont liées autour de ce projet-là?
Un projet fédère beaucoup. S'il n'y a pas de projet, de la part des participants, il n'y a pas de lien, quoi. Nous avions comme projet de reconstruire ce centre parce qu'on se disait que le milieu rural avait besoin d'un lieu de vacances pour les jeunes. C'était notre objectif primordial, celui-là. Il fallait qu'il y ait un centre de vacances qui puisse accueillir des jeunes ruraux en priorité. Et après, ça s'est ouvert à beaucoup plus large. Tout le monde était d'accord sur cet objectif. Après, je vous dirais que sur la masse des bénévoles, des travailleurs, c'était peut-être plutôt l'ambiance qu'il y avait, qu'ils ont maintenue longtemps au chantier. C'était pas obligatoirement l'objectif qui était le nôtre, mais ils ont vraiment apprécié la façon dont on vivait. Parce que là aussi, les bénévoles, il y a eu un forgeron de Monheim, il y a eu un plâtrier de la Bosse. Oui, il y a des gens qui sont arrivés par personne interposée et qui après, ils se sont vraiment fondus dans le groupe. Motivés par l'ambiance du chantier. Ça a été unique, moi, je pense honnêtement, c'était unique.
C'était un lieu de discussion et d'échange.
Oui, de vie, de vie.
Alors, c'était 5 ans de chantier, c'est ça, à peu près, de 73 à 78.
Alors, c'est 5 ans de chantier, première tranche, mais après, on a continué dans la foulée, quoi. Et après 80, on a le deuxième permis. Mais c'est vrai que les 5 premières années, ça a été quelque chose de très fort. Parce que l'aménagement des 2 autres bâtiments, c'était une continuité. Et qu'au début, c'était vraiment...
C'était l'aventure.
On ne savait pas si on allait arriver au bout, hein. Pont-de-Cam, c'est quand même une exception de continuité, quoi. Parce que ça va faire 50 ans, quoi.
Vous pensez que c'est toujours le projet qui fédère?
Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, vous n'avez pas ces structures qui existent dans les communes bernaises ou bigourdanes ou autres. Ce qui fait que Pont-de-Cam s'est modifié dans l'occupation des locaux. C'est un peu le phénomène des colonies de vacances, hein. Ça n'existe plus, les centres. Pourquoi? Parce que la société a évolué à ce niveau-là, et puis il n'y a plus ces structures. Donc aujourd'hui, je pense que Pont-de-Cam se tourne davantage vers d'autres publics. Mais le besoin initial n'existe plus aujourd'hui. Par contre, après, l'accueil des familles, ça existe toujours. Aujourd'hui, je trouve que c'est bien qu'on puisse avoir encore un public qui vient et qui repart, je pense, avec quelque chose qu'il a découvert à Pont-de-Cam. Ces valeurs qu'on a voulu pérenniser. Moi, je trouve que c'est un très beau site à Pont-de-Cam. Juste l'ouverture de la vallée, ça s'est bien placé. Puis faire aimer la montagne aussi. Il faut faire aimer la montagne aux jeunes. Il y a des choses à découvrir. Le fait de randonner, par exemple, il y a des jeunes qui viennent et qui n'ont jamais randonné. On va à Chéru, on va à Saouiste. C'était pourtant ça aussi.
La montagne, justement, la randonnée.
Si on est à Pont-de-Campe, c'est passer des vacances en montagne avec objectif de randonnée, c'est sûr, c'est vrai. Des découvertes de la montagne. On a eu des sorties à thème avec les accompagnateurs du parc. On a eu parmi nos bénévoles des gens qui étaient capables d'accompagner aussi pour la flore et la faune. Quoi. C'est un objectif aussi de Pont-de-Campe.
Vous, vous avez connu les camps à la SCEB. Par rapport à ces premiers camps, quels sont vos souvenirs?
L'organisation quand même était très dure. Hein. On arrivait à la SCEB, quelques adultes nous accompagnaient pour s'installer, mais enfin, il fallait planter nos tentes qui étaient trop places. Hein. C'était des tentes militaires, je me rappelle, avec un seul toit. Quand il pleuvait beaucoup, et vous passiez le toit, il y avait l'eau qui tombait sur le matelas. Enfin, c'était sommaire. Donc la SCEB, c'était vivre 15 jours dans la nature. Quoi. Cette vie communautaire qu'on découvrait. Le fait de vivre pendant 8-10 jours ensemble, entre garçons et filles, de même âge, avec l'encadrement, bien sûr. Quoi. C'était une expérience pour moi qui était importante. Quoi. On avait 14-15 ans, on faisait quand même des bonnes sorties montagne. Le feu de camp, le soir.
Vous vous souvenez si vous aviez des contacts avec les bergers, notamment?
Ça, j'ai peu de souvenirs. J'ai plus de souvenirs d'une vie collective que de l'environnement. Quoi. Quand on repartait, on avait tous la larme à l'œil, quoi, hein, parce qu'on se retrouvait après tous éparpillés, puis c'était une autre chose. Quoi, mais je crois que ça m'a servi à moi personnellement dans ma vie plus tard. Toutes ces expériences de prise de responsabilité, c'est pour ça que je me suis senti à l'aise très vite dans le milieu professionnel. C'est une expérience que l'on ne retrouve pas obligatoirement, quoi. Et ça vous aide beaucoup dans la vie.
Et justement, si vous aviez une phrase qui pour vous résumerait l'expérience de Pont-de-Camps et l'esprit?
Décidons ensemble d'un projet, prenons-le en compte, expliquons-le autour de nous, faisons adhérer le maximum de gens à ce projet. Parce qu'après ça, on vit un temps très fort d'échange, de vie commune, qui est une expérience de vie que l'on peut ensuite traduire dans d'autres contextes.
Merci.